Escalade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine. Bonsoir chers amis de la Calade, eh ben, nous voici de nouveau réunis pour un nouvel opus des couleurs du monde. Et ce soir, eh bien, je suis entourée très galamment avec Jeff.
Bonsoir.
Patrick à la technique et Jérémy Fischer. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Alors on va démarrer cette petite présentation par un vrai faux. Attention, est-ce que tu es prêt Jérémy?
Prêt.
Alors, est-ce que tu es un archiviste?
Je l'ai été.
Tu l'as été, très bien. Un archiviste, un historien, alors forcément.
Oui, on peut dire ça.
On peut dire ça. Un héros de conte de fées.
Peut-être un jour, qui sait.
Peut-être un jour. Un chanteur.
Je l'ai été.
Bon, enfin voilà, vous l'aurez compris, ce soir on invite quelqu'un qui a de multiples facettes et plein de choses à nous apprendre, donc on va l'écouter avec un grand plaisir. Si je resserre un tout petit peu sur le récit, donc tu es déjà venu plusieurs fois à Radio Calade, peut-être d'ailleurs, chers auditeurs, vous allez reconnaître la voix de Jérémy, vous souvenir que notamment il était venu présenter son périple 15 pays, 15 mois.
Oui,
15 alors, mois, 15 pays.
Oui, j'ai présenté mon périple et mon livre qui s'appelle Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde. Donc c'est effectivement un voyage de 15 mois en 2019-2020.
Super.
Ouais.
Et quand tu es revenu, du coup, tu as repris ton petit sac d'archiviste, d'historien?
Non, justement, je me suis reconverti en écrivain biographe. Oh, donc j'accompagne super. Des gens dans l'écriture de leur récit de vie.
De leur histoire, donc ouais. Quelque part, c'est une histoire plus personnelle.
Ouais.
Alors j'ai jeté un petit coup d'œil sur le site internet, si vous voulez en faire autant. J'ai adoré le slogan « Offrez votre histoire en héritage ». Donc ça en dit long sur cette volonté aussi de témoigner et d'offrir... peut-être une idée de cadeau, hein, d'ailleurs, en cette période de Noël. Concrètement, donc on resserre encore un petit peu sur le sujet de ce soir. Donc, tu as mis notamment ta plume au service de quelqu'un qui a vécu entre la fin du XVIIIe et le XIXe siècle, l'abbé Pochard. Alors, peut-être vous ne savez pas qui est l'abbé Pochard. C'est même sûrement possible, voire hautement probable.
C'est assez normal.
Ne vous inquiétez pas, n'éteignez surtout pas. Et qu'est-ce qui t'a intéressé alors du coup dans cette biographie? Pourquoi l'abbé Pochard?
Alors c'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Pourquoi? Parce que j'avais le souhait, étudiant en histoire à Strasbourg, d'apprendre le polonais et donc de vivre sur place. Et donc j'ai fait un Erasmus. Ah. Et en tant qu'historien, eh bien, il faut des archives. Ça m'a aussi amené à devenir archiviste. Et je suis allé sur place rencontrer des professeurs et je leur ai demandé « Est-ce que vous avez des archives en français ?» parce que je n'avais pas le niveau pour travailler sur des documents en polonais ou en allemand, parce que Poznan, c'est une région qui a été aussi sous influence et sous occupation prussienne. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a dit « il y a la correspondance de l'abbé Pochard ». Donc j'ai été très intéressé, j'ai découvert les documents aux archives et j'ai compris que là, il y avait un sujet qui m'était destiné.
Ah, c'est chouette, c'est une vraie rencontre.
Ah oui, complètement.
Ok, eh ben, alors c'est parti. C'est parti pour une heure d'émission à la rencontre de l'abbé Pochard. Alors, peut-être on peut démarrer simplement sur qui était-il, cet abbé Pochard, au départ. Son nom l'indique, abbé, mais à une période de l'histoire de France un petit peu compliquée. Tu veux nous en dire plus, Jeff?
Oui, l'abbé Pochard, ben, on va très vite s'apercevoir que c'était un prêtre réfractaire. Mais qu'est-ce que c'était que les prêtres réfractaires? Petit topo là-dessus, et aussi sur le contexte qui a incité l'abbé Pochard à quitter la France. Alors, je vais commencer par une citation. « Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses. » Vous avez reconnu ici un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui affirme donc la nécessité de la tolérance. Pourtant, entre la Révolution et la religion catholique, les rapports se détériorent rapidement. Ainsi, dès le 12 juillet 1790, l'Assemblée constituante vote la Constitution civile du clergé. Par là, le pouvoir se charge d'intervenir directement dans l'organisation de l'Église. désormais soumise au pouvoir civil. De plus, en novembre de la même année, les députés donnent 2 mois aux ecclésiastites pour prêter serment à la Constitution. Seuls 7 évêques et la moitié environ des curés s'exécutent. Les autres sont appelés les réfractaires, donc comme l'abbé Pochard qui sera un réfractaire. Ils deviennent des suspects ennemis de la Révolution. Louis XVI tente alors de les défendre, parce qu'il défend aussi la foi catholique. Ainsi, en décembre 91, il appose son veto à la loi du 29 novembre qui vient de se dérouler, et qui refuse donc aux prêtres non-jureurs la liberté de culte. Puis en mai 1792, il pose aussi son veto à la loi du 27 mai qui ordonne la déchéance de la nationalité pour tout réfractaire dénoncé par 20 citoyens ou par un seul en cas de trouble. Cependant, la prise des Tuileries et l'arrestation du roi le 10 août 1792 va permettre l'application officielle de ces lois répressives à l'encontre des réfractaires. Et le premier massacre commence. Le 14 juillet, un prêtre est tué à Limoges, 9 dans le Var. Le 15, 2 à Bordeaux, dont un ancien rédacteur notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand même, ça l'a fait mal. Le 26 août 1792, les prêtres réfractaires, qu'on peut estimer au nombre de 75 000, doivent quitter la France dans un délai de 15 jours. La propagande révolutionnaire anticatholique qualifie les réfractaires de fanatiques, anti-républicains et intolérants, insoumis et de mauvaise conduite. Les lois et actes anticatholiques se poursuivent donc et les prêtres réfractaires sont mis hors la loi par le décret des 29-30 Vendémiaires en deux, soit le 20-21 octobre 1793, qui prévoit quand même, mesdames et messieurs, leur exécution dans les 24 heures. C'est très sévère. Plus de 1000 prêtres et près de 200 religieux sont alors fusillés ou guillotinés. On assiste aussi à des autodafés de livres, d'œuvres d'art, de vases sacrés et ornements de culte sont organisés. Le dimanche est supprimé au profit du décadie du nouveau calendrier révolutionnaire. Alors, on a vraiment une œuvre anticatholique dans cette révolution française qui prend place dans une dimension encore plus large de lutte contre les religions qui sont assimilées à des superstitions. Le protestantisme et le judaïsme, d'ailleurs, sont également visés, pardon, ils ne sont pas en reste, parce que de nombreux pasteurs, par exemple, vont devoir abdiquer et des synagogues sont fermées. Cependant, Françaises et Français ne sont pas tous prêts à abandonner leur religion, d'autant qu'à travers elle, c'est au cadre de la vie quotidienne que l'on touche. De ce fait, la résistance à la déchristianisation a pris 3 formes principales. Alors d'abord, une résistance passive, ensuite une résistance ouverte et la volonté affichée de rétablir les manifestations du culte. Dans les campagnes, l'attitude la plus répandue fut la force d'inertie d'abord, les complicités et la ruse opposées aux pressions extérieures. Les prêtres réfractaires vont ainsi bénéficier du soutien plus ou moins actif de la majorité des habitants. Ils sont protégés dans des bois, des grottes ou des montagnes et subsistent avec l'aide des habitants des fermes voisines. Souvent, les femmes occupent les premiers rôles dans cette résistance, parce qu'elles ne veulent pas mourir sans sacrement. Ainsi, du côté de la Vaucance, en Ardèche, des bergères vont crier « Au loup ! Au loup !» alertant la population et le prêtre réfractaire de l'arrivée des gendarmes. Ainsi, il pourra se sauver. En effet, villes et villages vont finalement quand même, malgré tout, se scinder, parce qu'il faut choisir soit entre le maire et le clergé constitutionnel ou le curé réfractaire. Dans le journal Le Cantaliste, ainsi, on raconte que les dévotes de Sénézergues avaient dressé une potence pour le prêtre assermenté, censé remplacer leur curé réfractaire. Mais la municipalité appréciait au contraire les curés jureurs qui se soumettaient à la Constitution. Et les forces municipales vont forcer ces vieilles dames à arracher avec leurs mains nues le poteau et à payer une amende de 12 livres quand même. Cette histoire est une exception. La vie du prêtre réfractaire, s'il était dénoncé et retrouvé, se terminait souvent par la guillotine. D'où la volonté, comme celle de l'abbé Pochard, de migrer, de quitter la France, de partir en exil un peu partout à travers l'Europe, jusqu'en Russie, il me semble. Et Jérémy, est-ce que tu peux un peu nous raconter cet exil de l'abbé Pochard ?
Parfaitement, merci pour cette introduction. Je vais revenir un petit peu en arrière. C'est un jeune homme qui est originaire de Salins-les-Bains et qui choisit la voie du clergé et il devient séminariste à Besançon en 1786. Une année plus tard, il devient précepteur dans une famille de la noblesse, la famille de Tinceau. Donc il choisit plutôt la carrière de l'enseignement, mais concomitamment à ses études. Il est ordonné prêtre le 8 septembre 1790, donc c'est 2 mois après ce que tu disais, la loi de la constitution civile du clergé. Et il n'obtient pas de paroisse, il reste dans l'enseignement auprès de cette famille de la noblesse. En revanche, effectivement, le 27 août, il y a ce fameux décret de déportation des prêtres réfractaires. Et là, plus le choix, puisque ceux qui restent peuvent être déportés en Guyane. Ouais. Il y a vraiment des menaces qui pèsent sur eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident, comme la plupart des réfractaires français, de quitter le pays.
Alors, je t'interromps une toute petite minute, oui. Jérémy. En fait, là, c'est peut-être un peu mon regard d'historien qui a aussi travaillé en archives. Mais du coup, c'est des choses que tu lis dans sa correspondance, qu'on déduit, parce qu'effectivement, à telle date, il était à tel endroit, il part, etc.
Alors, merci, parce que ça amène autre chose, mais oui, il a beaucoup écrit, en fait, et ça fait partie des documents que j'ai découverts aux archives en Pologne. En revanche, il n'écrit pas à l'époque où il est au séminaire ou à l'époque où il est dans la famille de Tinceau. Il commence à écrire justement au moment de ce décret, quand il comprend qu'il va devoir quitter la France. Donc le début de son journal, c'est vraiment les 10 derniers jours avant de partir le 4 septembre 1792. Donc on le voit, il est cloîtré dans sa famille d'accueil. Les réfractaires sont recherchés, ils sont emprisonnés, donc il a peur pour sa vie. Donc c'est vraiment un contexte très très pesant. Mmh. Et en revanche, sur les autres parties antérieures, avant l'exil, il y a d'autres archives, mais c'est pas lui qui les a écrites. Mmh. J'ai rien de sa main avant 1792. Et donc, il décide de partir le 4 septembre. Il n'est pas seul. Il part avec son frère aîné, Jean-Étienne, qui est lui aussi réfractaire. Il est aussi prêtre. Et c'est peut-être lui qui l'a incité à devenir prêtre. En tout cas, c'est une hypothèse. Et avec deux autres camarades, ils partent. Et comme le disait Jean-François, les réfractaires dans toute la France partent, quittent la France. Et où ils vont ? Eh bien, au plus proche.
Au plus proche. Et oui, à ce moment-là, dans sa correspondance, justement, où il se dit, ben tiens, je vais peut-être aller dans des amis, voir des amis de la famille, par exemple, où il est précepteur, où il se dit déjà, tiens, je vais aller en Suisse.
C'est tout de suite la Suisse. Il faut quitter le territoire. Alors, il n'a pas de connaissances à l'étranger, mais il part en Suisse. C'est le pays le plus proche. Donc, ils ont 2 semaines pour partir. Il n'allait pas aller en Espagne ou en Belgique. Mmh. C'était vraiment, on va au plus proche. Ouais.
Après, à ce moment-là, il est à Besançon, c'est ça ?
Oui, Besançon. Donc, c'est 150 kilomètres. Alors, pas jusqu'à la frontière, il y a un peu moins. Mais son point de chute, c'est Soleure. C'est Soleure où a émigré quelques mois plus tôt l'évêque de Besançon, Monseigneur de Durfort. Et voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Pochard et ses confrères arrivent en Suisse, ils s'imaginent tous que ça va durer quelques semaines, quelques mois au maximum. Mm-hmm. C'est l'époque...
Ça va être temporaire, quoi.
Voilà, c'est l'époque de la bataille de Valmy, plus ou moins. C'est l'époque où... Enfin, Valmy, ce sera 3 semaines plus tard. C'est l'époque où il y a plusieurs pays qui sont coalisés contre la France. Et ils s'imaginent que la révolution va terminer, que le roi va être réinstallé, ce qui n'arrive pas. Donc, ils arrivent de manière temporaire. Et finalement, pour la Suisse, c'est un exil qui va durer 4 ans. Mmh. Donc, pendant 4 ans, il va être en Suisse. Alors, il va voyager. Et ça, il le raconte dans ses mémoires. Il y a 1 tome sur 4 qui est consacré à la Suisse. Mmh. Donc, il va beaucoup voyager. Et il va également avoir des petits boulots parce qu'il faut bien survivre. Et donc, c'est intéressant de voir tout ça écrit à la première personne.
Ouais, c'est génial. C'est une vraie découverte, du coup. On enchaîne peut-être avec une petite pause musicale ? Non, pas du tout.
Ou sur la mobilité à l'époque moderne, si tu veux bien.
Il me semblait quand même que Jérémy avait bien entamé déjà le sujet, donc je m'apprêtais simplement à nourrir un petit peu le propos. Peut-être c'est le moment, Jérémy, aussi de nous dire, finalement, la mobilité, on a peut-être une image un peu... d'une époque où les gens ne voyagent pas, qu'il n'y a pas de contact entre les villes, que tout est compliqué, tout est loin. Alors qu'en réalité, à partir de l'époque moderne, il y a une vraie curiosité vers l'autre. Alors évidemment, on voyage essentiellement à pied, ça c'est peut-être pas pour te déplaire, ou avec ce qu'on appelait des coches, donc des voitures publiques, ou des carrosses. Alors je sais pas comment, est-ce que tu sais par exemple comment est-ce qu'il a voyagé cet abbé Pochard ?
Oui. Alors je rebondis juste sur ce que tu disais. C'est vrai qu'à cette époque, les gens qui voyagent, ce sont les marchands, ce sont des fois des religieux qui vont de monastère en monastère, ou les personnes riches, mais monsieur, madame, tout le monde ne voyage pas au-delà d'un ou à deux jours de leur lieu d'habitation. Alors lui, effectivement, ses mémoires, ça représente 1300 pages. C'est de 1792, son départ en Suisse, à 1833, son décès. Et effectivement, il raconte beaucoup de voyages parce qu'il a été amené à beaucoup voyager. Alors, il traverse la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la Biélorussie, la Lituanie. Vous voyez, c'est quand même assez important. C'est vaste. Donc, de longues distances, si on prend son point de naissance, Salins-les-Bains, et la ville la plus lointaine où il est allé, c'est Vilnius. Il y a 2000 kilomètres. C'est pour vous donner... Voilà, c'est comme faire le tour du monde aujourd'hui.
Ouais, complètement,
c'est vraiment quelqu'un qui allait très, très loin par rapport à ses contemporains. Alors, comment il voyage? Si je prends juste le voyage d'exil, parce que je vous ai dit qu'il était 4 ans en Suisse, et puis après, il a trouvé un emploi de précepteur, puisqu'il avait cette compétence-là, en Prusse méridionale, donc en Pologne actuelle.
En Pologne actuelle, ouais.
Et il commence à pied. Il part de Soleure à pied. En Allemagne, sur le Danube, il prend le bateau.
D'accord.
Et puis, ensuite, c'était la voiture que tu citais tout à l'heure.
D'accord.
Donc là, il multiplie les moyens de transport. Et ça lui prend, là aussi, c'est assez intéressant de voir, c'est 1200 kilomètres, Soleure jusqu'à Nekla. C'est une ville pas trop loin de Poznan. Mm-hmm. C'est la cinquième ville de Pologne. Et ça lui prend 4 à 5 semaines. Alors, il n'y va pas au pas de course parce qu'il est en sécurité. Mmh. Il en profite pour visiter des églises et autres lieux au passage. Mmh. Mais voilà, ça ne se fait pas comme on le fait actuellement en prenant l'avion. C'est des voyages qui prennent un peu de temps.
Oui, finalement, le chemin fait partie du voyage à part entière. Alors, je me suis demandé, parce que finalement, à cette époque-là, il était assez courant aussi, c'est un peu le modèle anglais, que des aristocrates partent faire un tour d'Europe, qu'ils fassent le tour des grandes capitales, dans des objectifs d'enseignement, d'aller dans des universités, alors d'apprendre l'équitation aussi, qui est un art essentiel à l'époque, d'apprendre les langues, de parfaire sa maîtrise des langues, sa sociabilité, sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions de vie, en quelque sorte. Et puis, évidemment, toutes ces grandes familles se marient entre elles se connaissent, etc. Donc, tout ça crée aussi des liens. Et donc, finalement, pour cet abbé, aller travailler auprès d'une grande famille polonaise, est-ce que c'est aussi pour les enfants de cette famille une manière de parfaire aussi leur connaissance de l'histoire? Est-ce que ça ajoute quelque chose qu'il ait fait tous ces kilomètres avant d'arriver jusqu'à eux?
Alors, c'est l'une des motivations. C'est vrai qu'à cette époque-là, quand on se remet vraiment dans le contexte, il ne faut pas oublier que le français, c'est la langue diplomatique, c'est la langue utilisée par toute l'aristocratie, toute la noblesse de toute l'Europe. Et donc, avoir un enseignant français à demeure, c'est vraiment un plus. Et il s'avère, coup de chance pour toutes ces noblesses européennes, le prêtre français est pas cher, puisqu'il y en a des dizaines de milliers qui sont...
Il a besoin de partir de France, quoi.
qui sont déjà à l'étranger, en tout cas, et qui cherchent du travail, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, la révolution étant poursuivie, même par Napoléon après. Et donc, il saute sur l'occasion d'engager des prêtres français, et c'est le cas de Pochard, c'est ce qui le sauve un petit peu. Puisque ça va un peu rehausser son niveau de vie, son milieu de vie. Il reste un domestique, mais il est plutôt en haut de la pyramide.
D'accord.
C'est vraiment, surtout qu'il reste, jusqu'à son décès, il reste 37 ans auprès de cette famille. Il devient un membre de la famille. Et c'est vrai qu'il va... Alors, il n'écrit pas, il ne raconte pas quel est l'enseignement qu'il donne. Mm-hmm. Ça, c'est un peu une lacune de son récit.
Ouais.
Voilà. En revanche... on sait que c'est lui qui va engager les professeurs, les maîtres de chant, etc., et qui va emmener ses élèves dans les universités européennes. Je parlais de Vilnius. Voilà, il est allé à Vilnius pour emmener un de ses étudiants à l'université et l'accompagner sur place. Mais tu parlais aussi du tour d'Europe de la noblesse. Mm-hmm. Il y a un de ses élèves, ça a été documenté, qui a fait un tour d'Europe. Alors, c'est un peu plus tardif. C'est plus dans les années 1820. Mm-hmm. Et effectivement, il va en Italie, il va en France. Il fait son tour et il va dans les bibliothèques. C'est un grand bibliophile. Peut-être grâce à Pochard qui lui a transmis ça.
On peut l'imaginer.
Voilà.
Est-ce qu'ils écoutaient, tu penses, aussi de la belle musique?
Alors, sur la musique, oui, il cite des épisodes où il y a de la musique, mais c'est surtout lors de festivités, lors de mariages ou de la musique religieuse dans les églises, quoi. Mais pas forcément au-delà.
Pas forcément du Chopin.
Ou du piano. Ou du piano.
Alors, c'est peut-être le lien, du coup, pour le morceau de musique que tu as choisi pour cette première pause musicale. Tu veux le présenter, du coup?
Ben oui, avant ou après, comme vous voulez. Alors, c'est un petit peu de temps. Pourquoi j'ai choisi cette... Je vais présenter. C'est le Nocturne numéro 20. Mm-hmm. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Et pourquoi je le choisis? Il y a quatre raisons. Tout d'abord, c'est un contemporain. Chopin était un contemporain de Pochard, même s'il est né plus tard, en 1810, dans le duché de Varsovie. C'est un fils d'émigrés français. Son père était lorrain, qui a émigré en Pologne. Comme quoi, ça existait aussi dans ce sens-là à l'époque. Et son père était lui-même précepteur. Il a notamment été précepteur de Maria Walewska, qui a eu un enfant avec Napoléon. C'était sa maîtresse polonaise, qui est très très connue, elle était toute jeune. Autre raison, Chopin lui-même était un exilé. Il quitte la Pologne en 1830, au moment de la guerre avec la Russie, et à 20 ans, il va en France. Donc il y a vraiment cette notion d'exil dans l'autre sens. Et c'est justement à ce moment-là qu'il finalise cette œuvre, ce nocturne, c'est en 1830 que ce morceau prend vraiment forme. Et quand moi je l'écoute, j'entends la nostalgie d'un émigré qui pense à son pays. Donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Et c'est probablement pour toutes ces raisons condensées que j'écoute souvent Chopin quand j'écris sur l'abbé Pochard. Voilà, merci.
Thank you.
Vous êtes sur Kaladma Radio, en compagnie donc de Jeff, Jérémy, pour parler donc de ce très joli livre qui s'intitule « À la découverte de l'abbé Pochard ».
Les couleurs du monde.
Eh bien, poursuivons alors notre découverte, notre rencontre de l'abbé Pochard. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus alors, Jeff ?
On a vu avec Jérémy que l'abbé Pochard allait partir dans une famille de la noblesse polonaise. Donc, je propose de vous parler un petit peu de cette noblesse polonaise.
Oui, refais-nous un petit focus.
Voilà, un petit focus rapide.
Ouais, ça me va, ça. Ouais. Comme ouais. Ça, on comprend mieux.
Cette noblesse, elle est apparue vers le Xe siècle, à peu près. Elle trouve son origine dans la chevalerie qui soutenait le roi, souvent, ou en tout cas des princes et des grands seigneurs. Et cette noblesse d'épée constitue vraiment l'élite du pays et bénéficie de terres et privilèges en rétribution du soutien qu'elle apporte au roi. Progressivement, les familles de cette noblesse prennent de l'importance et assemblent autour d'elles de nouvelles familles anoblies. Si bien qu'en 1791, peu avant la disparition de l'État polonais souverain, on n'en a pas trop parlé, mais bon, on l'a un peu évoqué avec Jérémy quand même, la noblesse polonaise se divise en deux groupes principaux. La grande noblesse composée par moins de 300 familles, possédant des domaines très vastes et occupant les plus hautes charges de l'État, et la petite noblesse rassemblant plusieurs milliers de familles, de petits propriétaires terriens, dont certains quand même sont assez pauvres et ne sont pas forcément très aisés dans leur façon de vivre. Vous l'aurez peut-être compris, cette noblesse polonaise a la particularité d'être nombreuse comparativement aux autres États européens. Elle représente ainsi 8 à 10% de la population polonaise quand même.
C'est énorme.
C'est énorme parce que c'est seulement 1 à 3% en France, hein, par exemple, ou en Russie.
Elle a des privilèges comme en France ?
Alors, je vais revenir justement sur ces privilèges.
Non, mais j'écoute.
Ça vient. Alors, elle a beaucoup de spécificités justement, cette noblesse polonaise, notamment celle d'avoir la conviction d'avoir une origine légendaire. Ainsi, d'après une légende qui est très répandue en Pologne, elle descendrait des Sarmates, qui est un ancien peuple de cavaliers scythes, représentant la civilisation suprême. Ce peuple aurait jadis conquis les peuples locaux, devenus par la suite des paysans. Les conquérants auraient alors formé la couche de la noblesse, donc. Autre originalité, si dans les autres pays, une grande partie de la noblesse est représentée par des familles anoblies par la robe, ce qu'on appelle la noblesse de robe, en Pologne, au contraire, presque toute la noblesse déclare être de la noblesse d'épée, c'est-à-dire issue de l'ancienne chevalerie. Ça fait mieux de se déclarer de la noblesse d'épée, tout simplement. Par ailleurs, les droits dont jouit la noblesse polonaise sont radicalement différents des privilèges accordés à cet état social dans d'autres pays. Et je vais pouvoir répondre à ta question maintenant, Geneviève. Alors, outre des privilèges économiques et juridiques, typiques de toute l'Europe, les nobles polonais possédaient des droits politiques et des garanties civiles, comme par exemple le droit de participer à la gouvernance du pays et contrôler les décisions politiques du roi. Également la liberté de religion, le droit de se retirer d'une allégeance si le roi rompt les lois nationales ou les conditions du pacte conclu avec la nation. Encore une autre particularité de cette noblesse polonaise, indécidément, elle reconnaît l'égalité de sexe dans le domaine de la propriété. Contrairement aux autres pays européens où la femme appartient à son mari ou à sa famille, la polonaise noble possède des terres en son nom propre. Voilà. Par ailleurs, avec la contre-réforme de la fin du XVIe siècle, la religion catholique devient vraiment un facteur primordial pour la distinction de l'identité nationale polonaise par rapport aux nations voisines belliqueuses qui, elles, pouvaient pratiquer l'orthodoxie à l'est, par exemple, l'islam au plus au sud, et le protestantisme à l'ouest ou au nord, comme avec la Suède, par exemple. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que le catholicisme va faire corps avec l'identité polonaise. On a aussi des très grandes familles, donc, et celles qui sont les plus puissantes, on les appelle les Magna. Alors, je ne sais pas, Jérémy, si l'abbé Pochard travaille dans une de ces très grandes familles ou si c'est dans une famille un peu plus classique.
C'est une excellente question. Il est dans la famille Skujewski. C'est une famille de la noblesse qui a effectivement des titres anciens. Et son patron, le père de ses élèves, a été staroste de Gniezno, c'est-à-dire haut fonctionnaire de la couronne de Pologne. Il avait un territoire de la couronne qui lui a été confié et qui servait à...
responsable quand même.
Voilà. Ouais. Alors, il s'avère que c'est le cœur historique de la Pologne. Hein. C'est la première capitale du pays au Xe siècle. Et par ailleurs, il était chambellan du roi. Alors, c'est un titre honorifique, mais voilà, c'est une famille de haut rang, mais c'est pas non plus l'une des familles les plus importantes du pays. Donc voilà, c'est à nuancer.
D'accord. Et dans ses mémoires, quelle observation il peut faire de la noblesse polonaise alors ?
Alors, c'est justement l'objet d'un des articles qui constitue le recueil de mon ouvrage sur la noblesse. J'ai essayé de voir dans les 1300 pages qu'est-ce qu'il dit de la noblesse et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Alors, j'ai dressé six constantes, six caractéristiques de cette noblesse. Elle est pieuse,
d'accord.
Elle est éduquée. Elle est endogame, ça a été dit tout à l'heure. Mm-hmm. Elle est mondaine, elle est patriote et combattante. Mm-hmm. Et donc voilà, j'ai essayé de développer qu'est-ce qu'en dit l'abbé sur ces thématiques. Je suis ici entouré d'enseignants, donc si vous voulez, je vais développer un peu la partie liée à l'éducation. Donc il, en tant que précepteur et gouverneur, en fait, il passe, il prend du grade. Au début, il est précepteur, donc il enseigne les matières principales aux enfants. Et puis, quand ils deviennent plus grands, eh bien, il est gouverneur. Et là, il s'occupe de recruter, je l'ai déjà dit, les maîtres particuliers en polonais, en allemand, en italien, mais aussi en art, la calligraphie, le dessin, la peinture, la musique et le chant. Et ils vont dans les capitales, ils vont jusqu'à Dresde, Varsovie. Enfin, voilà, ils voyagent pour trouver les meilleurs enseignants. Et puis après, à l'université de droit à Varsovie ou Vilnius. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il n'est pas très satisfait des enseignants qu'il recrute. Lui-même est enseignant, mais ils ne sont jamais assez bons à ses yeux.
Il juge assez sévèrement, c'est ça ?
C'est ça. Ouais. Et si vous permettez, j'aimerais citer deux passages. L'un qui est relatif justement au maître, donc de langue ou de musique. Il dit « Je suis obligé de surveiller les maîtres » qui, en donnant leurs leçons, pensent plutôt à l'argent qu'elles leur produisent qu'au progrès de leurs écoliers. Ça, c'est pour les maîtres particuliers. Et puis, à l'université, à l'école de droit de Varsovie, qui est toute nouvelle, hein, justement, elle est liée au tout nouveau duché de Varsovie, donc il y a une école de droit qui est créée. Et il y a un de ses enseignants qu'il n'aime pas du tout, parce qu'il faut savoir que son élève a 18 ans, il est à la fac et lui, l'abbé Pochard, est assis à côté de lui dans l'amphithéâtre.
D'accord.
Donc il faut imaginer, c'est un peu anachronique, ouais, par rapport à ce que vivent les étudiants aujourd'hui. Et il écrit « Wągrowski est celui qui me déplaît le plus, vu que pendant ses leçons, il ne parle que de romans et, en expliquant le droit naturel, il enseigne qu'il est permis de mentir et autorise par ses discours ses auditeurs à manquer de respect à leurs parents. » Donc voilà, il a un regard critique sur les enseignants.
C'est hyper moderne, en fait. Et donc, du coup, il a ce regard donc un peu négatif sur ses subordonnés, quoi, finalement, puisque c'est lui qui dirige l'équipe des enseignants.
Alors, pas à l'université. Là, il n'a aucun pouvoir, aucun droit de regard. Hein, donc, il est juste là en tant que spectateur. Il découvre, comme son élève, les enseignements. Hein. Pochard n'a pas fait du droit civil comme lui le fait en 1810. En revanche, oui, les maîtres particuliers, c'est lui qui les recrute, mais il n'a pas forcément lui-même de compétences en musique, en chant, à part le chant qu'il a appris lui-même au séminaire.
Il organise l'enseignement, le temps.
Oui, c'est ça, c'est lui qui les recrute, qui négocie les tarifs, qui est présent aussi pendant les leçons, justement. Quand l'un de ses élèves fait du piano ou prend des leçons de dessin, bah, il est à côté et il surveille, il ne les laisse pas. Là aussi, parce que c'est une question de protection, de sécurité, hein, ce sont des enfants et le professeur doit être surveillé.
Donc, pas de liberté pédagogique à l'époque. Alors, j'ai juste envie peut-être de refaire un petit point, parce qu'on a cité plein de choses sur l'histoire de la Pologne.
De la Pologne, qui voilà. N'était plus la Pologne, en fait.
Et moi, je ne sais pas vous, mais je trouve que ce n'est pas toujours très, très clair, en fait. Déjà, dans mon esprit, probablement très naïf, pour moi, déjà, la Pologne, c'est un État récent, lié à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'en fait, pas du tout.
Hein, on est bien d'accord.
Dixième siècle. Ouais. C'est même plutôt un État qui a une histoire ancrée, tu le disais tout à l'heure, dans une vraie légende, avec une noblesse qui revendique
son côté guerrier.
Son côté guerrier, ouais. Exactement. Donc au Moyen-Âge, c'est même une grande puissance régionale. Hein, et il faut vraiment avoir cette idée d'une nation qui insuffle son histoire, qui insuffle ses légendes, qui insuffle sa culture, qui insuffle sa langue. C'est pas du tout un État subordonné à un autre. Donc c'est une puissance régionale, c'est même un grand État. Et à partir du XVe siècle, c'est un État qui va s'allier à la Lituanie. Mmh. Hein, Jusqu'ici, ça va, je ne dis pas
j'aurais
trop de
bêtises. J'aurais dit 16e siècle.
Mais... 15e, 16e, ouais, entre les
en
deux.
En tout cas, il y a Alliance.
Ouais, ouais, méga Alliance.
Méga Alliance, et qui devient donc une république. Alors ça, c'est un petit peu étonnant.
République des deux nations,
c'est ça, ouais, c'est
Pologne-Lituanie. Ouais.
Pologne-Lituanie, donc avec du coup toujours une grande importance de cette noblesse, ou au contraire, elle devient un peu subordonnée.
Non, bah,
c'est elle qui gouverne.
Oui,
c'est ça.
Ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est elle qui prend le pouvoir en quelque sorte, ce qui explique peut-être aussi son importance.
Qui gouverne autour d'un souverain.
D'un souverain, oui. Mais qui est le premier des nobles finalement, ce souverain.
Voilà. D'accord, mais il n'est pas élu. Parce que république quand même, c'est un peu étonnant comme terme.
Le souverain polonais est élu.
Ouais, il est
c'est bien. Ce qui explique que justement au XVIe siècle, il y a Henri de Valois qui est élu roi de Pologne. Ouais. Et puis il va renoncer au bout d'un an pour devenir roi de France.
Il va vite repartir.
La couronne polonaise est élective, effectivement. Ce qui pose beaucoup de problèmes, puisque ses voisins, que ce soit la Russie, la France, entrent dans un système de corruption. Pour avoir un souverain fantoche.
Qui permettra de d'élargir leur pouvoir.
C'est ce qui a mis fin plus ou moins à ce système-là. Quoi.
Ouais. Ça l'a affaibli.
Ça l'a affaibli, effectivement. Donc il y a de nombreux conflits militaires, c'est ce que tu évoquais. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, donc, cette république... Donc, il est complètement partagé entre la Prusse, la Russie, l'Autriche. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, la nation polonaise se fond complètement
Alors, pas la nation perdure, mais l'État polonais disparaît. Mm-hmm. Alors, en trois étapes, en 1772, il y a le premier partage de Pologne, mais il y en a un deuxième en 1793, donc seulement 3 ans avant l'arrivée de Pochard, et le dernier en 1795. Donc, quand il arrive à Poznan, c'est prussien depuis un an, quoi.
Ah, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que du coup, on est bien d'accord que il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant dans l'histoire de la Pologne et qui n'est pas dit du tout, enfin que moi je ne connaissais pas en tout cas, c'est le fait que c'est le deuxième pays européen à avoir eu une constitution.
Oui, avant la France.
Avant 1791. La France. Bon, ouais. Ça joue, c'est le 3 mai 1791.
C'est leur fête nationale.
Voilà.
Et ouais, ils en sont très fiers.
Bah, j'imagine. Et donc, cette constitution, elle met en place donc, une nouvelle royauté. Tu peux nous...
Alors c'est très compliqué l'histoire de la Pologne à ce moment-là parce que en 1791, en fait, il y a eu des luttes de pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les pro-russes, les pro-prussiens et autrichiens.
Les pro-autrichiens.
Et du coup, c'est une période d'instabilité, de guerre et voilà, guerre civile. 1793, du coup, nouveau partage. Et le dernier roi de Pologne, qui était l'amant de Catherine II de Russie, il perd le pouvoir en 95 et fin de l'État polonais tel qu'on le connaît. Et donc, la Pologne disparaît en tant qu'État et ne ressurgit qu'en 1918. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. On pense que c'est un État récent, oui. Il a existé depuis le Xe siècle, mais il a disparu de la carte pendant 130 ans.
C'est quand même...
Pour redisparaître pendant la Seconde Guerre mondiale et puis après pour être sous le régime communiste. Donc c'est vraiment un pays qui a très peu bénéficié de sa souveraineté au cours des 150 dernières années.
Et pour le coup, l'abbé Pochard, donc, quand il arrive, alors rappelle-moi, il arrive
96.
En quelle année ? En 96. Donc il vient d'arriver et alors quel regard il peut jeter sur cette nation partagée
Il est conscient des bouleversements qui ont eu lieu dernièrement, justement. Il le dit en arrivant, Poznan, qui est dernièrement occupé, etc. Après, il parle peu politique. Il va plus en parler quand, justement, les Français vont venir au moment du duché de Varsovie. Là, on est en 1806. Mais avant ça, il va pas trop parler de politique en tant que tel. C'est quand la politique va ressurgir et que les cartes vont être bouleversées qu'il va en parler.
Alors justement, l'histoire de ce grand duché de Varsovie, alors c'est assez étonnant en fait. Donc c'est sous l'impulsion de Napoléon, suite à la signature du traité de Tilsit. Donc, qui va du coup créer, en fait, c'est un État qui va devenir allié, si on peut dire vassal. De la France. Et donc, à ce moment-là, est-ce que l'abbé Pochard se dit, finalement, peut-être que je pourrais revenir en France, ou peut-être cette alliance va lui permettre de changer de position, ou d'avoir d'être davantage coté de cette alliance ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en 1806, la Prusse. Gagne des batailles contre la, pardon, la France, Napoléon gagne des batailles contre la Prusse et contre la Russie. Et à ce moment-là, eh bien, il y a le fameux traité de Tilsit. Et là où habite l'abbé Pochard, les Français arrivent, les soldats français arrivent. Mais lui, il ne voit pas ça d'un bon œil. On pourrait penser, ouais, super, des compatriotes. Non, pourquoi? Parce que l'armée française de Napoléon, pour lui, c'est l'armée révolutionnaire de 1792. C'est la continuité. Lui, il est royaliste. Donc Napoléon,
à l'encontre de ses idéaux, quoi.
Napoléon est un usurpateur. Donc il explique que justement, dans sa famille, ils doivent accueillir les soldats français. Mais lui, et du coup, comme il est français, c'est lui qui est chargé de ça. Mais ça l'embête clairement.
D'accord. Il est complètement. Il subit la révolution jusque dans son moindre
de ses refuges. La révolution l'a rattrapé en quelque sorte avec l'arrivée de Napoléon. Après, c'est vrai qu'il est témoin oculaire et c'est l'objet d'un autre article de ce livre-là sur l'épopée du grand-duché de Varsovie où Napoléon crée une constitution, donne le duché au roi de Saxe, Frédéric Ier, dont le grand-père était lui-même roi de Pologne au XVIIIe siècle. Donc c'est une tradition qui continue, mais ça va pas durer longtemps puisque c'est un État qui va péricliter avec la défaite de Napoléon en 1812.
Complètement. Ben écoutez, on a balayé une grande partie de l'histoire, la géographie. Peut-être une petite pause là, hein, ça s'impose.
Ile ścieżek, szereg ptaków, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture. De Villefranche à Tataouine.
Morceau que donc nous avons découvert avec notre invité de Couleurs du monde. Nouvel opus ce soir à la découverte de l'abbé Pochard. Jérémy, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le choix de ce titre?
Alors ça s'appelle Od Salich od Zapomnienia. C'est une chanson de Marek Grechuta de 1971 à partir d'un poème de Konstante Gałczyński. Alors c'est une chanson moi qui me plaît beaucoup et la traduction du titre c'est Sauver de l'oubli. Donc voilà, c'était la thématique vraiment de la mémoire. Donc ça me paraissait pertinent de.
Ah bah c'est une transition parfaite.
Voilà.
Donc justement, les mémoires de cet abbé, on en parle, mais on a peut-être envie de les lire. Où peut-on trouver ce livre ?
Alors, les mémoires de l'abbé Pochard sont dans des services d'archives et il faut aller à l'étranger en Pologne.
Ah ouais, mais tu as une version abrégée, je suis sûre.
Oui, moi j'ai tout retranscrit, mais c'est mes archives personnelles. Mais pour découvrir le livre, mon livre à la découverte de l'abbé Pochard, on peut le retrouver sur mon site internet, www.desracinesalapage.fr.
Parfait.
On peut le commander en ligne.
Et on peut le commander en ligne. Librairie.
Il n'est pas en librairie parce que voilà, j'ai d'autres livres qui sont à la librairie des Marais, mais j'ai pensé que l'abbé Pochard en calade, ça ne devait pas forcément attirer les foules. Donc
si je comprends bien, on peut découvrir certains de tes ouvrages donc à la librairie des Marais, en centre-ville.
Alors,
je pense qu'on n'a pas besoin de présenter la librairie des Marais. Et donc en ligne. Parfait.
Ouais, c'est ça.
Enchaînons. Du coup, cet abbé, il arrive donc à une période bien précise de l'histoire de cette nation polonaise. Et quelle est sa grande caractéristique, alors, finalement ? Non, c'est très mal introduit, ça. Je reprends. qu'est-ce qui pourrait être un peu un élément distinctif qui résonne avec notre actualité ?
Eh bien, en Pologne, il y a une très forte proportion, par rapport au reste du monde, en tout cas, de population juive. Parce qu'ils font à peu près 5% quand même de la population totale, ce qui n'est pas rien. Ça faisait à peu près 1 million de personnes au début du 19e siècle, donc au moment où l'abbé Pochard était en présence sur ce territoire. Et pourquoi ? Ça faut remonter quand même au 10e siècle, c'est un peu loin, on ne va pas faire toute l'histoire de tout cela, mais sachez simplement que pour les Juifs, la Pologne s'appelle Poline, c'est-à-dire ici, nous avons un havre. Ou alors, ici, Dieu s'est reposé. C'est vraiment une terre de paix, une terre d'exil pour les populations juives, essentiellement ashkénazes, donc qui venaient plutôt d'Allemagne. Ça ne s'appelait pas l'Allemagne à l'époque, mais voilà, qui venaient de là-bas, et qui pouvaient construire, avaient des droits, il y avait des véritables communautés, notamment les shtetels, qui sont bien connus maintenant, documentés, les petites villes et villages. Voilà. Malgré tout, ils ont quand même fait face parfois à quelques exactions, quelques violences, et peut-être que l'abbé Pochard a été observateur de cela, et l'abbé Pochard, lui, étant fervent catholique, peut-être aussi fut-il aussi un fervent anti-judaïque.
Alors effectivement, il a un vrai sentiment d'hostilité à l'égard de la religion juive et de ses adeptes. Alors c'est pas surprenant puisqu'il est ecclésiastique catholique. Alors c'est pas une thématique principale dans ses écrits. Sur 1300 pages, il cite le mot juif 55 fois, donc c'est pas non plus exceptionnel. Mais effectivement, d'abord, il observe leur présence quand il voyage, mais au même titre qu'il va dire qu'il va observer la présence des protestants, par exemple. Donc c'est pas du tout stigmatisant de ce point de vue-là. En revanche, on se rend compte qu'il met en place une stratégie d'évitement lors de ses voyages, puisque en Pologne notamment, il y a beaucoup de juifs qui tiennent auberge. Et quand on voyage, à l'époque, on n'a pas les applications pour réserver une chambre d'hôtel, et donc on s'arrête le long de la route quand les chevaux ont besoin de manger. Et donc, il a une stratégie d'évitement. Alors comment ? Il dort chez des connaissances, il privilégie les auberges catholiques, ou bien il poursuit sa route jusqu'à ce qu'il en trouve une. Mais quelquefois, ce n'est pas possible, et il est quand même confronté aux juifs ici et là. Alors, pas qu'en Pologne, en Lituanie aussi et en Biélorussie actuelle, parce qu'il n'a pas le choix. Donc, pour passer la nuit, ça lui arrive de dormir chez un juif ou d'acheter de la nourriture ou même de faire appel à certains services, notamment un maréchal ferrant ici ou là. Alors, je vous citerai juste une citation de 1810 où il dit « J'ai couché à Kamionka chez le premier aubergiste juif qui se soit trouvé sur mon passage depuis Vilna ». Vilna, c'est Vilnius. Il rentre à Varsovie. Et il écrit « Ce juif a été fort honnête et très raisonnable, ce qui est extraordinaire. » Donc voilà, c'est assez rigolo. C'est la chose la plus sympathique qu'ils disent sur un juif. Et en même temps, il explique
que
c'est extraordinaire.
Malgré tout, il reprend quand même un stéréotype.
Voilà, il ne change pas pour autant son opinion sur la communauté juive.
Après, il est aussi fils de son époque.
Exactement. Moi, il n'y a pas de jugement, en fait. C'est juste une observation. Mais il n'y a pas de jugement. C'était comme ça.
Ouais, c'est quelque chose qui convient de rappeler quand même aussi. C'est que finalement, cette pensée qui peut être qualifiée d'antisémite, si on va dans l'extrême. Mais à l'époque, finalement, ça fait partie des clichés qui sont véhiculés par la religion, qui sont véhiculés par la politique. Et finalement, il ne faut pas y voir forcément une intention de nuire ou une intention mauvaise.
Il ne cherche pas à les nuire, mais il ne veut pas être embêté. Il veut quand même éviter les contacts.
Oui, il reste...
Chacun chez soi.
Chacun chez soi.
Un petit peu.
Si on enchaîne, du coup, cet abbé, il a quand même aussi, j'imagine, il est confronté à la vie au quotidien donc, de la famille dans laquelle il est hébergé, dont il fait même partie. Mm-hmm. Il est notamment il m'a semblé voir ça aussi sur le site, assez bouleversé par la mort de l'un de ses élèves. Et puis, il va être lui-même confronté à des maladies et des épidémies très graves à l'époque. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, même si on a l'impression comme ça qu'on avance dans le temps, on est toujours au début du 19e, et à cette époque-là, finalement, la maladie, c'est quelque chose qui vient du diable. C'est la volonté divine, quelque part. Donc, il n'y a pas forcément de volonté de vouloir se soigner. Est-ce que c'est une opinion qu'il partage, ou est-ce qu'il est déjà un petit peu plus progressiste quant à sa vision de la maladie ?
Si, il cherche à se soigner. Hein. Il a un accident en 1813, il se casse la cheville. Et, c'est une forte blessure. Mm-hmm. Il est très mal soigné, mais il fait quand même appel à plusieurs médecins.
Pas des exorcistes ou pas des...
Non.
Donc mais... il est fils de son époque, vraiment.
Ouais.
Et il fait appel du coup à des médecins dans une logique aussi, par exemple, quand il va être confronté... À d'autres pandémies, hein, par exemple l'épidémie de choléra.
Oui, alors ça, c'est... pour répondre à la question, non, à ce moment-là, il ne fait pas appel à des médecins, mais c'est vrai que c'est un des sujets du livre que j'ai écrit sur l'abbé Pochard, les maladies infectieuses. Et ce qui m'a amusé, c'est de voir un petit peu comment il évoquait, au long de ces 1300 pages, ce type de maladie. Et donc, j'ai pu identifier une contamination isolée, donc la tuberculose d'un de ses élèves, qui en est décédé en 1822. On ouvre un peu le focus, une épidémie locale de petite vérole, cette fois-ci, c'est la variole. Mmh. C'est comme une maladie qui a un taux de mortalité de 30 à 50% en 1800. Et là, on se rend compte qu'il a la chance d'être dans une famille de la noblesse, et donc il peut, le temps de l'épidémie, habiter dans une autre demeure de la famille, qui est en dehors du périmètre de cette épidémie. Et puis, le sujet le plus important, c'est une pandémie mondiale, puisque au cours du 19e siècle, il y a eu 6 pandémies de choléra, en fait, 6 vagues de choléra, et c'était la grande maladie de l'époque. Et c'est quand même une maladie qui tue de 50 à 70% des personnes infectées. Et donc, c'est la deuxième vague, c'est de 1826 à 1837. Je la fais courte parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais la pandémie arrive en Pologne, je dis Pologne, mais à l'époque, hein, c'est le royaume du Congrès, la Pologne, en 1831. Par les soldats russes qui se battent en Pologne, et les soldats qui se battent pour la Pologne et qui fuient les soldats russes et qui arrivent dans le duché de Poznan apportent le choléra dans le duché de Poznan où habite l'abbé Pochard à ce moment-là. Effectivement, c'est intéressant de voir quelles sont les mesures sanitaires qui sont mises en place, puisque voilà, ça fait écho vraiment à ce qu'on a vécu ces trois dernières années. Ouais.
Je crois que vraiment, Jérémy, merci beaucoup pour cette rencontre avec l'abbé Pochard, de cette découverte de l'abbé Pochard que je vous invite évidemment à lire. On est d'accord que finalement, là, tu nous présentes le travail d'un historien qui met en avant une personnalité qui est représentative de son époque, qui permet de comprendre un peu mieux l'histoire de la Pologne, sa géographie particulière. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire en conclusion ?
En conclusion, j'aimerais dire qu'il est représentatif de son époque en tant que prêtre, puisqu'il est réfractaire. Donc, c'est une grande majorité des prêtres qui ont quitté la France pour sauver leur vie. En revanche, il est assez unique, et c'est pour ça qu'il m'intéresse, puisqu'il n'est jamais revenu en France, contrairement à la plupart des autres. Il y a eu deux vagues de retour des réfugiés, des réfractaires, en 1801-1802. Au moment du concordat et de l'amnistie des émigrés, il n'est pas rentré.
Et alors, et puis, il a regretté, peut-être ?
Il y a une deuxième vague, excuse-moi. Il y a une deuxième vague en 1814-1815, quand Napoléon a perdu la guerre, et puis surtout que Louis XVIII est retourné sur le trône de France. Et donc, lui, il est pas revenu à ce moment-là. Et donc, il est original pour ça. Il fait partie de la frange extrême qui n'est pas revenue. Et en plus de ça, il a écrit pendant tout son exil, en documentant toutes ces années-là.
Eh bien, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci, Jeff.
Merci. Un grand merci, Jérémy.
Merci, Jérémy. Merci, Patrick. Et à bientôt. Calade.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.